Radio Okapi.
Et voici la grande édition de la mi-journée présentée par Belinda Bosuma. Tout de suite, le sommaire. Affrontement ce matin entre l'armée et la milice Codeco à Yagou dans Mahagui en Ituri. Bilan, 7 militaires tués et le campement des FARDC incendié d'après plusieurs sources. Bilan non confirmé par les officiels. Toutefois, plusieurs habitants ont fui la zone. Le gouvernement congolais réaffirme sa détermination à privilégier le dialogue social afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes des enseignants notamment. Ceci ressort de la réunion du Conseil des ministres tenue hier par visioconférence et présidée par le Premier ministre Samalou Kondé. Et puis, David McLachlan Carr est notre invité ce midi. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU a conduit une délégation des ambassadeurs cette semaine au Kasaï et au Kasaï central. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en marche du plan après MONUSCO dans le Kasaï. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Des combats ont opposé ce samedi matin les FARDC aux miliciens de la Codeco à Yagou, dans la région de Nioka, territoire de Mahagui. Selon plusieurs sources, ces rebelles auraient tué 7 militaires et incendié le campement des FARDC. Il a fallu des renforts de l'armée en provenance de Nioka et Pandourou pour maîtriser la situation. Toutefois, de nombreux habitants ont fui la zone pour se réfugier vers Rimba et Nioka centre. Pour l'heure, pas de réaction côté FARDC. Le récit de Martial Kiza.
Selon nos informations, ce sont les miliciens de la Codeco qui ont attaqué tôt ce matin la position de FARDC à Yagou, petite localité située à environ 10 km de Nioka dans les Pandourou, en territoire des Mahagui. Des sources sécuritaires rapportent que ces rebelles seraient venus des Boudjo dans les groupements Djougouba. Leur objectif était de se ravitailler en armes et munitions. Plusieurs sources concordantes indiquent qu'après 30 minutes de combat, ces assaillants ont mis le feu au campement de FARDC. Nous avons vu 7 corps de militaires des FARDC gisant au sol, a déclaré un habitant jeune au téléphone au moment où il fuyait avec sa famille. Des sources sécuritaires indiquent que c'est grâce à un renfort des militaires venus de Nioka Centre et Rimba que ces miliciens ont été stoppés dans leurs exactions avant de battre en retraite. Plusieurs familles ont vidé la localité de Yagou pour se diriger vers des endroits plus sécurisés. Des sources sécuritaires précisent que quelques tirs sporadiques était toujours entendu dans cette zone à cette fin de matinée. L'armée ne s'est pas encore prononcée sur cette attaque. Bounia, Martial Kizabiamonko, Radio Okapi.
Entre-temps, au Nord Kivu, 110 combattants du groupe Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, se sont rendus hier à l'armée avec 24 armes. La cérémonie officielle a eu lieu dans le village de Nyamitaba, territoire de Masisi. Par la même occasion, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 a présenté d'autres armes récupérés lors des opérations de traque des groupes armés locaux dans ce territoire depuis début octobre. Reportage Bernard Nyangi.
Lors de cette cérémonie de reddition présidée par le général Mouéolumbu Evariste, commandant du secteur opérationnel Sokola 2, plus de 90 armes récupérées par les FARDC ont été présentées aux médias. Le porte-parole du secteur indique que cette reddition est une des conséquences de la pression militaire exercée sur différents groupes armés locaux encore actifs dans le territoire de Masisi. C'est dans le cadre, selon lui, d'une opération Masisi sans groupe armé lancée depuis quelques semaines dans le cadre de l'état de siège. Lieutenant-colonel Guillaume Djike.
Nous venons de vous présenter nos 6 armes, mais ils ont amené 24 armes. Les 70 autres sont ici des opérations que nous avons menées contre ces mêmes groupes armés dans le Masisi, mais aussi dans le groupement Ufamando 1 et 2 contre les groupes armés IPDC de Mahachan. Nous avons, au cours de ces opérations, neutralisé le général autoproclamé Aguma, qui se trouve être adjoint de ces mouvements, pour vous dire qu'incessamment, nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Masisi.
Les 110 combattants rendus du groupe APCLS sont depuis hier vendredi cantonnés dans le camp des rendus de Moubambiro, précisent les sources du programme de démobilisation et réinsertion communautaire PDDRCS. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, la commissaire principale Basilwa Ngosandra Christine appelle les femmes à intégrer massivement la police nationale congolaise. Ce commandant second de l'escadron protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles de la police à Goma a lancé cet appel dans le cadre de la campagne dénommée « Écoutons les femmes », campagne initiée et cette semaine par la police de la MONUSCO UNPOL. Pour Madame Basilwa Ngo, si les femmes luttent pour la parité et 50-50 dans tous les secteurs de la vie, moins d'elles manifestent cependant l'intérêt pour la carrière de police, suivant son témoignage dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
C'est une question de bien gérer son temps. Au bureau, je suis commissaire principale, commandant second, tandis que chez moi à la maison, je suis maman, je suis la femme de quelqu'un et je fais mes devoirs comme parent. D'abord, les slogans là qu'on disait que si vous envoyez votre fille au sein de la police, on nous prenait comme des ratés, puis on était marginalisés dans les temps. Mais actuellement, avec la réforme de la police, on est l'image, l'exemple, je peux le dire. J'ai lancé un appel aux parents d'encourager leurs filles de venir s'enrôler massivement au sein de la police dès qu'il y a recrutement. Parce que nous sommes représentés, mais à petit nombre. Il y a vraiment une faible représentativité des femmes, des filles au sein de la police. Et pourtant, nous disons 50-50, mais jusque-là, on n'a pas encore atteint ces nombres. Et puis, on doit aussi contribuer au maintien de la paix et à la sécurité de notre pays.
Restons Nord Kivu. Le Forum de paix de Beni appelle à l'organisation d'un procès public de tous les présumés ADF et leurs collaborateurs arrêtés au Nord Kivu et en Ituri, ce depuis l'instauration de l'état de siège dans ces deux provinces. Pour cette organisation de défense des droits de l'homme et de la promotion de la paix, ce procès doit également concerner tous les officiers FARDC arrêtés pour détournement présumé des fonds alloués aux opérations militaires. Selon le coordonnateur de cette structure, le sort de ces personnes doit être connu. Justin Maté au micro de Martial Papimoukeba.
Les animateurs de l'état de siège sont quand même en train de faire quelque chose et nous devons les reconnaître. Maintenant que du côté renseignement, il y a des exploits qui sont en train d'être réalisés. Et là, on voit par exemple les cas des présumés ADEF qui ont été arrêtés. Et les cas récents, on a parlé du fils et l'épouse de la deuxième personnalité de l'ADEF. Mais de l'autre côté, quand on voit le travail qu'a réalisé l'inspection générale des FARDC récemment dans l'Ituri et le Nord Kivu, et récemment, on a assisté à une vague des officiers présumés détourneurs. Mais il y a aussi plusieurs autres vagues des présumés ADEV qui ont été arrêtés. C'est des personnes qui ont été démantelées pendant la période de l'état de siège et dont le sort doit être connu. Il suffit pas d'arrêter. Essayons aussi d'avancer dans un autre angle. Et là, je vois l'aspect judiciaire. Donc, les procès valent la peine. Mais pas n'importe quel procès. On veut pas des procès à huis clos. On veut pas des procès qui vont être organisés à Kinshasa, à Goma, pas du tout.
La poursuite du dialogue social entre le gouvernement et les bancs syndicaux, le programme de développement à la base de 145 territoires, le processus de recensement et d'identification de la population, la tournée diplomatique du président de la République, ce sont là entre autres les sujets abordés par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lors de la réunion du Conseil de ministres tenue hier par visioconférence. Plus de détails avec vous, Paul Matendo Mayamba.
Au sujet du premier point, Belinda Bousouma, le Premier ministre a réaffirmé la détermination de son gouvernement de toujours privilégier le dialogue social afin que les problèmes des agents et fonctionnaires de l'État y trouvent des solutions appropriées, notamment pour une année scolaire apaisée. Parlant du programme du développement des 145 territoires, Jean-Michel Samalou Kondé a informé les ministres qu'il effectuera ce week-end une descente à Songololo dans la province du Congo central pour le lancement de certains travaux prioritaires. Une autre question abordée, c'est celui relatif au processus du recensement et d'identification de la population. Il a invité les ministres sectoriels concernés à finaliser et à présenter la feuille de route et les modèles économiques permettant la concrétisation du processus. Au sujet de la tournée diplomatique du président de la République, le patron du gouvernement a indiqué que cette visite s'est inscrite dans le cadre du rétablissement des relations diplomatiques entre la RDC et l'Israël. Félix-Antoine Tshisekedi poursuit sa tournée dans le cadre du sommet de G20 qui se tient à Rome en Italie avant de se rendre à Glasgow en Écosse pour la COP26.
Rendons-nous à la province de la Tchopo. 5 jours après l'ouverture du bureau de réception et du traitement des candidatures à la Commission électorale nationale indépendante, 14 formulaires ont été retirés par des potentiels candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la Tchopo. Cependant, ces opérations se déroulent sur fond de campagne électorale masquée par certains candidats, une attitude condamnée aussi bien par le gouverneur intérimaire que par la secrétaire exécutive provinciale de la CENI. Explication Jacques Moukonkolé.
Des 14 formulaires retirés, 13 l'ont été par des candidats indépendants et 1 par un parti politique. La secrétaire exécutive provinciale de la CENI précise que parmi eux, 9 ont retiré également les notes de perception. Et Melihaha précise que ces documents leur permettent de verser leur caution à la Banque centrale du Congo. Avant même que la liste provisoire des candidats retenus par la CENI ne soit publiée, l'ambiance de la ville prend les allures d'une campagne électorale. Et Melihaha condamne vivement ce comportement.
Ils doivent attendre le moment opportun. Ils vont s'adresser aux députés provinciaux parce que ce sont eux qui sont les grands électeurs. S'adresser pour le moment à la population, je trouve que c'est une anarchie.
Par ailleurs, au sujet du report de l'élection attendue le 3 décembre prochain, Emelihaha dit n'avoir pas encore été notifiée par sa hiérarchie. Selon elle, les opérations se poursuivent normalement.
Nous sommes l'émanation du bureau de la CENI. C'est le secrétaire exécutif national qui doit nous instruire pour dire que non, voilà, vous suspendez les activités au niveau du BRTC. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu une instruction émanant de notre hiérarchie.
Rappelons que lors de son passage dernièrement au bureau de la CENI, le gouverneur des provinces ad intérim, Maurice Abibou Sakapela, avait recommandé aux candidats de respecter le code de bonne conduite de la CENI. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Restons dans la Tchopo pour parler de la clôture hier à Kisangani de la 18e session de la table ronde inter-CDR, centre de distribution régionale des médicaments. C'est après 4 jours de travaux, soit du 26 au 29 octobre. 19 centres de distribution venus des 4 coins de la RDC ont participé à ces assises. Ils ont échangé notamment sur le plan national et opérationnel, sur les grands axes du plan stratégique et accès opérationnel de leur fédération, ainsi que sur la vision nationale de la couverture sanitaire universelle. Par ailleurs, ils ont décelé les défis essentiels d'approvisionnement en médicaments essentiels pour la prise en charge des patients. Au terme de leurs travaux, les participants ont formulé des recommandations. Le secrétaire rapporteur de la Fédération des centrales de distribution des médicaments de la RDC en parle, Jean-Claude Dekalundu, dans ses propos recueillis par Jacques Moukonkolé.
Organiser une seule table ronde intercédère par année. Deuxième recommandation. La contribution progressive des CDR à l'organisation des tables rondes inter-CDR avec une contribution régressive des partenaires dans les 5 ans qui suivent. Troisième recommandation, mettre en place un comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations des inter-CDR. La quatrième recommandation, finaliser les processus de restructuration des réseaux FEDECAM avec la séparation des fonctions du secrétariat général de celles du BECAM. Cinquième recommandation, mettre en place un plan de redressement pour la régularisation des CDR vis-à-vis de l'État sur base des informations fournies par la DPM et l'IGS. Sixième recommandation, organiser une réunion d'évaluation des textes juridiques et conventions État FEDECAM CDR ainsi que leurs incidences sur les taxes, redevances assujetties aux structures du SNAM et les exonérations avec l'implication de toutes les parties prenantes et enfin mettre en place un groupe de travail pour la conception de la ligne d'approvisionnement de l'exercice 2022 pour toutes les CDR.
Notez, sauf changement, que la 19e session de la FEDECAM, entendez Fédération des centrales de distribution des médicaments de la RDC, se tiendra à Kananga, au Kasaï central, en 2022. Direction Butembo. Des centaines de diplômés des différents domaines ont été largués vendredi sur le marché de l'emploi. C'était lors de la cérémonie de collation des grades académiques marquant la clôture officielle de l'année académique 2020-2021. C'est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en séjour à Butembo qui a présidé cette cérémonie, ce qui a mis en communion plus de 10 établissements de l'enseignement supérieur de Butembo et environ. Mouindo Nzangi a à cette occasion appelé les lauréats à faire preuve des valeurs de leurs institutions respectives. Grévis Saloumou signe ce reportage.
Les activités relatives à cette cérémonie se sont déroulées dans l'amphithéâtre de Cephades au niveau du site de l'Université catholique du Graben à l'horizon. Plusieurs étudiants et leurs membres de famille ont pris part à cette cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Mwindonzangi Butondo avait à ses côtés l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Mgr Sikouli Paluk Melchizedek, ainsi que les membres du conseil urbain de sécurité. Dans son mot, le numéro 1 de ce secteur éducatif a appelé les arrêts du jour à véhiculer dans la société les valeurs acquises dans leurs institutions durant leur cursus académique.
J'insiste sur la lutte contre les antivaleurs. Notre engagement doit être renouvelé pour éviter toutes les pratiques qui n'honorent pas notre secteur. L'université, c'est un lieu de discipline. C'est pas un lieu où nous formons des bandes de voyous.
Pour sa part, le professeur Kazou Valfonse, président de la sous-conférence des chefs d'établissement des lycées à Butembo et à Viro, a appelé le lauréat du jour à capitaliser la matière apprise durant leur parcours académique et à créer de l'emploi au lieu d'en demander. Soulignons qu'à cette même occasion, Mwindonzangi Butondo a été élevé au rang de docteur honoris causa par l'Université catholique du Graben, UCG en sigle. Butembo, Grévis Salumu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bamako au Mali hier pour manifester contre la présence militaire française. Les protestataires demandent le retrait total des troupes françaises du pays. Ces dernières sont présentes dans la région depuis 2013. Une crise diplomatique a éclaté entre l'Arabie Saoudite et le Liban après des propos du ministre de l'Information libanais, Georges Kordaï, critiquait la guerre au Yémen. Un mois avant sa nomination au gouvernement, Riyad a rappelé vendredi son ambassadeur à Beyrouth et a donné 48 heures à l'ambassadeur du Liban pour quitter le royaume. Les autorités saoudiennes ont aussi annoncé la suspension des échanges commerciaux entre les deux pays. Les dirigeants libanais ont réagi timidement à la mesure inédite dans les annales diplomatiques des deux pays.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC, David McLachlan Carr, a conduit cette semaine au Kasaï et au Kasaï central une délégation des ambassadeurs. Selon lui, cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en marche du plan Nexus pour la région, cela quelques jours après le départ de la MONUSCO. Avec les agences onusiennes et d'autres partenaires, le souci est d'avoir une réponse humanitaire pour les populations, mener des projets de développement et consolider la paix, a souligné David McLachlan Carr. Il s'entretient avec François Kadima.
David McLachlan Carr, bonjour.
Bonjour.
Kakananga, c'est vrai que après le départ de la MONUSCO, les agences continuent le travail ici. Il y a le programme Nexus. Où nous en sommes aujourd'hui avec le Kasaï?
Oui, je suis venu cette fois, c'est ma septième visite à Kananga, avec mon coprésidente du groupe de coordination des partenaires. C'est une plateforme qui existe au niveau de Kinshasa pour coordonner mieux coordonner les activités entre les bailleurs des fonds et je suis le coprésident. On a décidé de venir juste pour prendre mesure de la situation ici dans les Kasaï et Kasaï central après le départ de la MONUSCO il y a à peu près 5 mois. Nous avons eu aussi l'opportunité de visiter quelques projets qui reflètent cette nouvelle approche Nexus qui est l'approche que nous avons adoptée pour mieux coordonner les activités entre les trois volets humanitaires, projets de développement et la construction de la paix. La logique, c'est de mieux travailler ensemble entre les partenaires, surtout les ONG nationales et ONG internationales et les Nations Unies, pour créer une vraie stabilité et pour en faveur de la stabilisation des provinces du Grand Kasaï.
Vous avez déjà une idée sur les activités qui doivent être menées dans le cadre Nexus?
Oui. Nous avons identifié 4 axes de travail. Premièrement, on a des projets maintenant pour aider les communautés de rétablir l'activité agricole avec les livraisons des semences, des outils, mais aussi accès surtout pour les femmes à la terre. Le deuxième axe, la réintégration communautaire et la stabilisation, surtout pour les populations déplacées. Troisièmement, c'est la bonne gouvernance. Nous allons des projets conjoints pour renforcer les capacités étatiques, surtout pour la gestion des ressources naturelles, l'administration publique. Quatrième axe, on a comme un projet de renforcer les services de base, des projets conjoints pour l'éducation et dans la santé. Pensons qu'une priorité pour les Kassai, c'est vraiment de rétablir les services de base à la population parce qu'ils sont assez faibles depuis des années des conflits et des années des manques d'investissement.
Vous avez visité le Kassai voisin et le Kassai central. Estimez-vous qu'aujourd'hui, les voies sont balisées pour la réalisation de tout ce plan qui sont définis pour la consolidation de la paix, la gouvernance et le développement, selon vous?
C'est une très bonne question. Je crois que c'est le moment d'entamer des projets sur le Nexus parce que nous sommes dans un contexte post-conflit, mais les Kassai restent toujours comme une région assez fragile avec beaucoup d'instabilité à cause des conflits. Oui, c'est le moment parce que la MONUSCO est partie il y a quelques mois, mais nous sommes maintenant en train de renforcer la présence des agences, fonds et programmes du système des Nations Unies. Alors, ça veut dire que le départ de la MONUSCO ne veut pas dire, pas du tout, le départ des Nations Unies. En effet, maintenant, on se trouve dans le nouveau bureau, le nouveau bâtiment du PNUD, qui vient d'établir une présence permanente ici dans le Kassai pour coordonner les activités pour le développement. Alors, l'appropriation des parts du gouvernement, c'est bien important dans tous ces processus. On a eu des conversations avec les deux gouverneurs et nous avons encouragé le gouverneur aussi de prendre le leadership de ces processus et vraiment de coordonner nos efforts aussi et assurer la bonne coordination entre les efforts du gouvernement et les efforts des Nations Unies, que nous travaillons en synergie avec les priorités identifiées par les autorités provinciales. Mais il faut avoir cette leadership de part du gouvernement pour nous donner des orientations et pour les secteurs qui nous devons aider. Et ça, c'est bien important.
David Maklakankara, nous vous disons merci.
Ouais, c'était un plaisir d'être avec Radio Okapi aujourd'hui. Merci beaucoup.
Un plaisir également pour nous. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC s'entretenait avec François Kadima. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Gignon Kamunga, supervision de Ben Kabamba, à la technique Jean-Claude Ciala et Belinda Bosuma. Vous la présentez. Merci.